fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, deuxième partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors bonsoir Abidjan, N'Djamena, Ouagadougou, Conakry, amis fidèles auditeurs panafricanistes, merci de votre fidélité, bien sûr sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Bien, après la crise en République centrafricaine où les rebelles ont repris les armes jeudi dernier, après seulement 2 mois d'accords de paix signés avec le gouvernement et également les manifestations des Guinéens de l'étranger qui réclament leur droit de vote, sujet quand même qui ont meublé la toute première partie de cette émission, parlons à présent des mouvements populaires qui continuent au Togo pendant que l'opération du recensement continue à Lomé. Ou a démarré plutôt le 15 mars dernier. Eh bien, opération quand même contestée déjà par une frange de l'opposition. La diaspora togolaise insiste aussi toujours sur son recensement. Yves Ekouyamaïso, docteur en économie, coordonnateur général du collectif pour la vérité des urnes diaspora, CVU diaspora donc. Il est également consultant international et auteur. Il sera notre invité depuis Vienne en Autriche dans un instant. Eh bien, la crise sociopolitique au Togo paraît également un problème spirituel. Le prophète Ésaïe a fait ces derniers temps des révélations très très pertinentes qui secouent surtout la classe politique. Il sera également l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Supervision générale, Michel Pouléo. Collaboration, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjodi, Lucien Wukanli et Fabi Kouassi depuis Lomé. Fenêtre sur l'Afrique est réalisé et présenté par Sylvain Amos. Également, merci à nos auditeurs de Radio Légende FM à Lomé au Togo et la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Dans un instant, notre éditorial. Une vidéo a sillonné depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et également sur plusieurs sites internet, notamment togolais. Cette vidéo démontrait la détermination d'un peuple, l'amour d'une patrie et surtout la soif de changement sur le plan sociopolitique et économique. Dans ce pays, le Togo, hommes, femmes, vieux, vieilles, jeunes et pris de paix et de liberté, cotisaient samedi dernier de l'argent lors de la manifestation du FRAC et du collectif Sauvons le Togo, et bien sûr pour permettre au mouvement de continuer la lutte. En réalité, ils donnaient le peu d'argent qu'ils avaient pour soutenir le combat de la résistance citoyenne. Ils cotisaient le minimum de rente qu'ils possédaient, comme l'avait fait la vieille femme veuve à l'église, selon une histoire de la Bible antique. Le Messie l'avait bien confirmé à travers cette histoire de l'Écriture sainte que cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait était la personne qui avait le plus cotisé et son offrande a plus de mérite et de bénédiction que tous les riches qui donnaient une minime part de leur immense richesse. Eh bien, cette histoire biblique, selon nous, rattrape les Togolais qui cotisaient lors de la manifestation du FRAC et du collectif Sauvons le Togo, samedi dernier. Cotisation dont procédaient ces manifestants, comme à l'église, chantant et dansant, faisant ainsi confiance en Dieu, seul libérateur du Togo. En réalité, cette vidéo a touché plusieurs milliers de Togolais à l'étranger. Ils étaient nombreux, ces Togolais de la diaspora, à nous appeler de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, Suède, États-Unis, etc., pour nous faire part de leurs vives émotions. Certains Togolais pensent que c'est ridicule que le FRAC et le CST puissent demander aux manifestants de cotiser pour soutenir le mouvement. Doit-on leur donner raison? Ici, le bon sens du civisme peut aider tout citoyen togolais à trouver une réponse. Aussi, nous posera-t-on la question: que fait la diaspora togolaise pour un changement démocratique au Togo? Faut-il une implication de la diaspora? Ici encore, nous répondons sans hésitation oui. Dans les luttes contre les dictatures comme celle sous laquelle vit le peuple togolais, l'implication de toutes les composantes de la société, qu'elles vivent sur le territoire national ou à l'extérieur du pays, est nécessaire. Beaucoup d'entre vous se sont activement impliqués dans la lutte pour la démocratie par le passé. Dans beaucoup de cas, ils ont été déçus soit par les résultats obtenus, soit par la manière dont les ressources ont été gérées. Ceci est le fait qu'ils ont envoyé les ressources à des gens, malheureusement, qui ne sont pas véritablement engagés pour la promotion de la démocratie au Togo. Eh bien, c'est avec le cœur serré que nous nous souvenions que certains d'entre vous ont des difficultés financières à la suite de leur implication dans la lutte démocratique au Togo. Alors, la question que nous nous posons est de savoir si nous avons le droit de nous laisser décourager par ces mauvaises et douloureuses expériences. La réponse est tout de suite non. Nous sommes convaincus que l'avenir de tout un peuple se construit par lui-même. Et la diaspora fait partie de ce peuple. La diaspora tirera profit de la victoire de la démocratie au Togo. Cette lutte gagnée vous permettra de ne pas baisser la tête lorsque, dans un groupe, on vous qualifie de Togolais. Cette lutte gagnée vous permettra de parler comme un ressortissant d'un pays normal. Cette lutte gagnée vous permettra de lire dans les journaux et magazines de votre pays d'accueil des articles relatifs de votre pays d'origine qui ne vous font plus honte. La victoire des forces démocratiques vous donnera l'occasion de ne plus avoir peur de répondre aux coups de téléphone qui viendront des membres de votre famille demeurer au Togo parce que vous serez convaincus que ce ne sera plus pour vous demander de l'argent. Les changements qui suivront l'instauration et la consolidation de la démocratie leur auront permis de trouver de quoi vivre décemment. La victoire des forces démocratiques vous permettra de rentrer paisiblement au Togo et de jouir de vos vacances sans avoir peur de dépasser vos prévisions budgétaires parce que des parents ne viendront pas vous soumettre des problèmes financiers auxquels vous ne pouvez certainement pas répondre en totalité. Nous en étions là quand brusquement l'affaire des incendies des marchés dans ce pays a rebondi. En vérité, le perroquet Loum Tometi, en confrontation avec l'ancien premier ministre Agbéome Kodjo, devant le doyen des juges d'instruction, le jeudi passé, a refusé de chanter sa chanson. Pire, il a fait volte-face en citant des noms de ceux qui sont censés diligenter l'enquête comme des manipulateurs qui auront extorqué ses aveux sous torture et que les présumés coupables qu'ils auraient mis en accusation dans l'affaire des incendies seraient plutôt des innocents. Eh bien, tenez-vous bien, ces aveux ont été enregistrés devant les avocats d'Agbéome Kodjo et le procureur. Dans un pays normal, la SRI mise en cause dans ce dossier doit être rapidement dessaisie, mais comme nous sommes au Togo, pays de paradoxe, attendons de voir. Mais alors, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, amis de la diaspora de tout horizon divers, que pensez-vous de ce acte louable de tout un peuple qui hebdomadairement tire le diable à la queue pour contribuer à sa propre libération à travers cette cotisation collective citoyenne et la détermination à en découdre avec le régime actuel au Togo? maintenant la classe politique opposante à l'impérieux devoir de ne pas trahir la lutte pour un état de droit au Togo. La diaspora aussi doit faire sa part de partition. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Togolais vient, bâtissons la cité. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. African Revolution, chantée par Tiken Diafakoli, qui pense que l'Afrique a besoin d'une révolution intelligente et jeune. Nous accueillons dans un instant, même en direct depuis Lomé, notre correspondante Fabi Kwasi pour l'actualité politique au Togo.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amous, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. L'affaire d'incendie des marchés de Lomé de Kara, il y a encore des rebondissements. On vient d'inculper notre confrère Zeus Asiadovo, directeur de publication de Liberté. Est-ce que c'est le tour des journalistes d'être inculpés dans cette affaire d'incendie des marchés au Togo, Fabi Kwasi?
Oui, Sylvain Bros, très bonne analyse. En tout cas, l'opinion le pense par ici. Vous l'aviez dit, Zeus Asiadovo, le DP du quotidien privé Liberté, est inculpé cette semaine par la justice suite à un article publié dans son journal sur les incendies de Lomé de Kara, révélant que le principal faux témoin déniché par les très controversés gendarmes enquêteurs Mohamed Loum aurait été torturé afin d'incriminer les responsables du collectif Sauvons le Togo. Complicité d'incendie, groupement de malfaiteurs sont entre autres les charges qui sont retenues contre notre confrère. Une inculpation rocambolesque, un acharnement contre la liberté de presse, une autre méthode pour museler une certaine presse jugée critique. Les mots ne manquent pas aux journalistes et organisations de presse pour qualifier cette inculpation qui est une autre togolaiserie. Depuis quand la publication d'un article peut vouloir dire qu'un journaliste fait partie des complices qui ont incendié des marchés? Se sont étonnés la plupart des confrères dans les débats radiophoniques cette semaine. Certains vont plus loin en se demandant si un papier et une plumes peuvent mettre le feu à des marchés. Il est à rappeler que l'article publié le lundi 18 mars 2013 dans les colonnes du journal Liberté faisait part des tortures qui auraient été commises sur la personne de Tometi Toussaint alias Mohamed Loum. Et fort heureusement, l'intéressé lui-même, lors de la confrontation avec le président Ndoumé Kodjo, a soutenu et confirmé les écrits de notre confrère. Il n'a pas manqué de citer les capitaines Akako, patron du service de recherche et d'investigation SRI, et ses collaborateurs Agbenda Yanani et un certain chef des logis qu'il aurait torturé pour qu'il incrimine les responsables du collectif. Un témoignage que le faux Loum, que le fameux Loum a repris dans une lettre mea culpa adressée à M. Fabre, président de l'ANC. Difficile de trouver à partir de ce moment comment on peut inculper un journaliste de groupement de malfaiteurs pour avoir fait des révélations qui se sont confirmées plus tard par l'intéressé lui-même, principal témoin, qui a donc confirmé les écrits du journal, non devant ses amis, mais devant le procureur de la République togolaise et le doyen des juges d'instruction. Une autre aberration, le confrère a été inculpé sur la base du code pénal, alors que le code de la presse et de la communication existe bel et bien. Une disposition élémentaire du droit que les juges de Fornia Simbé sont capables d'appliquer malgré les rappels à l'ordre des avocats. Ils ont préféré obéir à leurs interlocuteurs à l'autre bout du fil. Il est donc à souligner que tout au long de l'interrogatoire, les juges du pouvoir n'ont cessé de sortir de la salle pour prendre des instructions. Les décisions de justice par ici étant prises dans d'autres officines, le confrère Asia Louvo confiera plus tard d'ailleurs qu'il a découvert son inculpation. Le même scénario a été observé dans l'affaire Bojona, où la fiche d'inculpation a déjà été remplie avant qu'on invitât le ministre pour son interrogatoire. Une comédie de très mauvais goût qui fait dire à maître Claude Amégan, avocat de Zeus Asia Louvo, j'ai peur pour notre justice. Monsieur Asia Louvo est journaliste. Il y a un code de la presse qui régit la profession de journaliste au Togo. C'est ce code qui sanctionne le journaliste en cas de délit de presse, en cas d'infraction. Et ce n'est pas le juge d'instruction qui peut appeler un journaliste et l'inculper pour un délit de presse. Nous disons qu'il y a un sérieux problème, dénonce maître Claude Amégan, abasourdi et inquiet. Je sais voir comme les responsables du collectif Sauveur le Togo est inculpé, placé sous contrôle judiciaire. Avec le témoignage accablant de Mohamed Loum, ce dossier s'écroule, soutient pour sa part maître Dodia Pévon, conseil de la plupart des inculpés. Quelle recette le pouvoir qui a fait l'option d'une enquête bâclée et téléguidée va-t-il trouver pour ébahir encore les populations togolaises pourtant habituées à près de 50 ans de tripatouillage des faits? C'est le wait and see. Quoi qu'il en soit, depuis les croustillantes révélations de Mohamed Loum, la panique s'est emparée des enquêteurs tortionnaires de la République. Le principal témoin torturé, manipulé, vient de craquer, remettant tout en cause, c'est-à-dire le montage gauchement orchestré. Les organisations de presse, tout en dénonçant cet acharnement comme Zeus Asia Louvo, appellent tous les journaux à reproduire l'intégralité de l'article qui a valu l'inculpation fantaisiste à notre confrère.
Fabi Kouassi, merci beaucoup et à samedi prochain.
TogoCity.com IssyLomé.com CVU-Togo-Diaspora.org MO5-Togo.com Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bien, beaucoup de Togolais croyants sont confiants que le problème sociopolitique du Togo est purement spirituel. On s'en souvient encore des séances de prière avec les bougies allumées qui en réalité a un grand impact selon beaucoup d'hommes de Dieu hein, au Togo. Le prophète Esaïe, de son vrai nom Dekpo Kokou Romain, a fait des révélations touchantes sur la malédiction qui est actuellement sur le Togo. Dans sa sortie médiatique, le prophète Esaïe est revenu sur les prédictions qu'il a eu à faire par rapport au décès du président Nyasimbe Yadema et de l'ancien ministre, hein, et paix à son âme, d'espoir Richard Tipoué, et au pont écroulé, hein, à l'affaire Katania Sigbe et également l'arrestation de Pascal Bodunan. Eh bien, pour en savoir un peu plus sur ces révélations, nous l'accueillons dans un instant en direct depuis Lomé.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
Prophète Esaïe, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Eh bien, je m'appelle Sylvain Amos depuis la Suisse Radio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Prophète Esaïe, merci infiniment de participer à cette émission. Vous êtes professeur et vous êtes prophète, je le disais, prophète Esaïe. Alors, vous faites la une des journaux avec vos révélations. Vous parlez de ces incendies des marchés au Togo depuis l'année dernière. Et personne ne vous a pris au sérieux. Alors, comment expliquer que les révélations sur les autorités n'aient pas pris la mesure de la situation, prophète Esaïe?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Amozou. Je réponds à cette question uniquement que par les versets bibliques qui disent qu'un prophète avertisseur sentinelle n'est jamais reçu à sa tête, à sa propre famille et dans sa patrie, dans sa maison, selon Marc, chapitre 6, verset 4 à 6, aussi l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas, et qu'il n'est pas en lui. D'autre part aussi, le prophète Esaïe ne roule pas en 4x4, n'habite pas une belle maison, et son nom ou sa personnalité n'influe en rien les autorités togolaises, toujours dans Jean, chapitre 4, verset 17, qu'il a bien précisé, de quoi ils disent que la prophétie n'est pas biblique. En conclusion, les autorités ne craignent pas Dieu.
Justement, prophète Esaïe, votre passage sur Radio Légende FM, notre partenaire à Lomé au Togo, où vous aviez révélé que des morts vont s'enregistrer d'ici quelques semaines. Et depuis, votre domicile ne désemplit pas. Hein. Alors que viennent chercher ces pontes du pouvoir? Et que pouvez-vous faire pour eux? Est-ce que la prophétie étant la prophétie, hein, pouvez-vous les sauver de la mort au prophète Esaïe?
Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes au dernier temps où la vérité doit triompher sur le mensonge.
Justement,
donc,
oui.
Ce n'est pas ma maison qui ne désemplit pas depuis mon passage à Radio Légende FM, mais c'est mon portable qui ne cesse de sonner. Certains proches du pouvoir qui m'appellent et m'invitent chez eux ou qui cherchent à me rencontrer sont ceux qui ne m'ont jamais entendu parler ou qui m'ont souvent entendu parler et entendu parler de moi par les bouches de trucs afin de me féliciter d'autre part sur ma ligne droite et de la mission que Dieu m'aurait confiée. D'autres, c'est pour me critiquer, etc. Ce que je peux faire pour eux, c'est de leur prêcher sans hypocrisie la repentance, la recherche de la justice et des choses spirituelles, afin que leur délivrance et salut soient une certitude auprès du Dieu vivant et l'illusion Jésus-Christ. Car l'homme, en tant que créature, ne peut prétendre sauver l'homme de la mort. La Bible le dit bien dans Psaume 146, verset 3 à 4, que nous ne devons pas nous confier au noble, à un être humain, à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière. Donc, le prophète Esaïe ne peut rien faire pour les sauver de la mort, d'après Ézéchiel, chapitre 33, verset 4 à 5.
Prophète Esaïe, finalement, pourquoi ne rencontrez-vous pas Fornia Singbe, le président actuel, pour lui dire que l'heure est grave au Togo?
Merci, monsieur Amoudou. Nombreuses sont mes démarches effectuées en direction du chef de l'État pour la rencontre, afin de lui signifier ma mission, sa mission divine, de la part du Dieu LZ. Quand je dis Dieu LZ, vous lirez ça dans Matthieu 27, verset 46. Je peux vous dire que je suis passé par ses proches collaborateurs les plus haut gradés de l'armée. Mais ici, je me réserve le droit de ne plus les citer. Sinon, ils diront que le prophète Esaïe est en train de les vendre à autrui. Mais du moins, général Laupessi, le chargé des affaires religieuses, qui m'a mis toujours en attente, j'ai été chez lui à la maison. On s'est dit beaucoup de choses. Même l'oncle du président, l'oncle maternel du président, et mon ami, on a discuté assez de ces choses. Et vu l'actuel premier ministre en sait beaucoup. Je lui ai confié plusieurs fois ma sollicitation de audience auprès du PR. Et même l'ex-premier ministre a demandé, bien qu'il ne soit pas dans leur cas, a ménagé par l'intermédiaire de son ancien protocole Soulé, pour que tout soit dit. Mais hélas, parfois je suis à la maison, les gens viennent me dire que c'est le père qui les envoie, qu'il veut me recevoir à telle date. On attend. C'est vrai, même son petit frère Perrine a joué un grand rôle pour m'obtenir cette audience, toujours zéro. Donc finalement, que la volonté de Dieu s'exécute est ma dernière formule.
Justement, professeur Esaïe, comment voyez-vous alors la situation du Togo, hein? Est-ce que ce pays retrouvera-t-il la paix un jour? Et oui, si oui, à quel prix, professeur, et à quel prix, prophète Esaïe? Autant pour moi, prophète Esaïe.
Merci beaucoup, le professeur également. La situation du Togo est très, très sombre et chaotique. Si nos dirigeants, leaders politiques aux unes d'opposition, qui surtout aussi s'adonnent à cette pratique machiavélique ou maléfique pour affronter le pouvoir, parfois dans leur hypocrisie, et tout le peuple togolais ne tourne pas le regard vers Dieu véritablement dans cette pensée de repentance, de changement de mentalité, de recherche de la justice divine des sceaux spirituels et interpeller le chef de l'État à briser. Je vous parlais toujours de cet esprit à blanc, à cette tête, assis sur quatre pieds, qui est sur le Togo et qui est révélé depuis le 22 septembre 1946 par l'apôtre prophète ghanéen Obonu dans sa parabole, et laquelle prophétie a prédit la succession au trône togolais par M. Fornasinghe et ses conséquences.
Prophète Esaïe, merci infiniment d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé, où vous nous aviez expliqué tout au long de cet entretien que le Togo a besoin d'être libéré seul par la foi et seul par l'aide de Dieu. Merci beaucoup, prophète Esaïe, et bonsoir chez vous depuis Lomé au Togo.
Vous avez remis une question pour en répondre. Au moment où vous me dites que le Togo retrouvera la paix un jour, retrouvera-t-il un jour sa paix? Oui, je vous dis, le Togo retrouvera la paix un jour, d'ailleurs confirmé par son verset servant officiel de l'indépendance. Je m'explique. L'indépendance du Togo a été scellée par le livre d'Esaïe dans Esaïe, chapitre 21, verset 11 à 12, où il a été dit, la nuit sera longue, mais le jour vient. Notre souffrance va perdurer, mais nous y sortirons un jour.
Merci.
Si nous nous adonnons aux revendications prophétiques d'après Ecclésiaste chapitre 9, verset 13 à 18. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, professeur. Bonsoir. bien le Seigneur va nous restaurer, chanté par John Starr. Vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je le disais, le recensement a démarré le 15 mars dernier au Togo. Eh bien, la diaspora exige également du gouvernement d'être recensé à son tour, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de Togolais, environ 1 500 000, 2 millions de Togolais à l'étranger. Nous accueillons tout de suite en direct depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Ekwe Amaizo, coordonnateur général du collectif pour la vérité des urnes CVU Togo Diaspora. Il est également consultant international et auteur. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Vienne. Bonsoir, Dr Yves Ekwe Amaizo.
Bonsoir, Amos.
Merci d'être toujours notre invité depuis Vienne. Le recensement des citoyens togolais a commencé le 15 mars dernier dans certaines localités du Togo. Alors, du coup, certains politiques observent beaucoup d'irrégularités. Hein. On dénonce même le recensement de mineurs. Quelle analyse faites-vous de cette opération, Dr Yves Ekwe Amaizo?
Bon, merci pour l'invitation. Remettons tout ceci dans le contexte. Le recensement de la population togolaise a commencé depuis 2011 et d'ailleurs s'est terminé depuis. Et le chiffre trouvé était de 6 100 et quelques habitants. Sauf que quand vous regardez bien ce chiffre, il manque toute la diaspora. À partir de là, et certainement sous pression de la communauté internationale pour être précis, de l'Union européenne, de la France, voire de l'Allemagne, Fornia Singbe, qui a vu que cette fois-ci, s'il continue à passer un recensement dans lequel une bonne partie de la population locale et celle togolaise à l'étranger n'est pas comptée, il risque donc d'avoir des élections qui ne seront pas validées par la communauté internationale. Donc face à cette pression, il s'est dit il vaut mieux refaire un recensement. Donc nous sommes dans une sorte de révision, hein, de correction exigée de l'extérieur essentiellement. Mais il est très malin. Le problème qui se pose aujourd'hui, vous avez dénoté un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit des mineurs, que d'ailleurs la CENI a démenti. Certains parlent de morts que d'autres démentent. Le problème est même ailleurs. On viendra tout à l'heure dessus sur le risque de fraude électronique. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que cette diaspora, plus de 1 million, voire 2 millions selon certains, non seulement n'est pas comptée, mais on ne veut même pas qu'ils participent à quoi que ce soit. Et donc on a un problème de fond ici, de savoir à quoi d'abord va servir ce faux recomptage. Et vous savez qu'au Togo, pour pouvoir être compté, donc recensé, il vous faut une carte d'identité. Comptez le nombre de Togolais et Togolaises qui ont une carte d'identité en cours de validité. Comptez ceux qui ont même les papiers de la nationalité. Tout ce beau monde va être éliminé. Rajoutez à cela qu'il y a des difficultés sur les fiches elles-mêmes électorales. Donc vous voyez que la fraude risque d'être relativement massive. Et c'est pour ça qu'il faut tout cela le mettre et le couvrir derrière une fraude électronique. Comme quel que soit ce qu'il sortira, et quel que soit le nombre de gens non recensés, on va nous annoncer de manière électronique, donc par l'informatique, un certain nombre de chiffres qui vont faire, comme d'habitude, des élections annoncées d'avance, dans lesquelles d'ailleurs on souhaite, dans la nouvelle alliance que vous connaissez, RPT Unir et l'UFC, pouvoir rouler dans la farine de manioc les Occidentaux, notamment l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Comment ? Ben c'est très simple. Puisqu'ils continuent à croire que l'UFC est dans l'opposition, qu'ils continuent à croire que l'alternance est de mettre Gilles-Christ Olympio qui travaille maintenant avec le gouvernement depuis le début et qu'il a plus de 7 ministres au gouvernement et qu'il n'y a aucun changement pour les populations, et donc en mettant celui-ci majoritaire, soit au Parlement, voire même le mettre comme président du Parlement, le tour sera joué et la communauté internationale pourra dire « Écoutez, ça s'est un peu mal passé, mais au fond, l'opposition est là. » Voilà l'entourloupette. Qu'on est en train de nous préparer.
Merci.
Ah bien sûr. Aller apporter des preuves, c'est très difficile. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire en sorte qu'un comité et de l'opposition et des gens de la majorité présidentielle puissent ensemble vérifier non seulement le recensement, non seulement les comptages dans les bureaux des urnes, et bien sûr que le système électronique justement ne vienne que confirmer ce qui a été compté manuellement.
Docteur Yves Ekouyamaïso, merci infiniment pour vos commentaires sur le recensement des citoyens togolais qui a d'ailleurs commencé le 15 mars dernier dans certaines localités au Togo. Et parlons effectivement encore de l'actualité de cette semaine au Togo. Il y a eu rebondissement dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Alors, que pouvez-vous dire au sujet des droits des journalistes togolais de plus en plus menacés au Togo? Je pense au directeur du quotidien Liberté, Zeus Aziadovo, qui vient d'être inculpé pour avoir écrit un article sur les incendies de Lomé de Kara. Docteur Yves Kouyamaïso.
Il y a deux parties dans votre question. Il y a les journalistes dans leur globalité. Ce sont les yeux, ce sont les oreilles, ce sont la bouche des Togolais. Il y a beaucoup de choses qui ne sont toujours pas très sérieuses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très sérieuses. C'est-à-dire que le journaliste, quelque part, reflète la vérité de ce qui se passe dans ce pays. Et quand il dit des choses inexactes, d'autres journalistes peuvent le corriger. Nous connaissons tous le sérieux journal Liberté. Nous connaissons les écrits de ce journal depuis des années. Ce journal fait du travail sérieux d'investigation. Ce journal vient de faire un certain nombre d'enquêtes et a sorti une étude, un rapport, et a posé un certain nombre de problèmes, justement, sur les incendies des marchés au Togo. De là, son directeur, un homme très sérieux, connu sur la place, dirigeant un journal sérieux, est mis en prison, sans aucun respect des procédures, sans aucun respect des formes, sans aucun respect du fond et de la présomption d'innocence. Je crois me rappeler que le ministre Bawara disait que le Togo qu'il est en train de diriger avec Fonia Singbe respectait, que lui-même était un homme de droit. Il faut donc lui poser la question. Comment se fait-il qu'un journaliste qui ne fait que faire son travail de journaliste et de manière plus globale des journalistes sérieux de ce pays ne peuvent pas être la bouche, les oreilles et les yeux de ce petit pays? Petit pays par la taille, grand par le fait que le changement qui viendra dans ce pays viendra inonder l'ensemble de l'Afrique, puisque nous avons eu le premier coup d'État. Nous serons aussi les premiers, certainement, à y trouver une solution intelligente. Donc, pour répondre à votre question, non, c'est un gouvernement de l'arbitraire. C'est une gouvernance de l'arbitraire. C'est la décision des autocrates. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Puisque ceux qui prétendent avoir apporté la démocratie, les Occidentaux, ils entendent, ils voient les ambassades, les chancelleries, les dirigeants occidentaux empêtrés dans d'autres problèmes et leur récession, ils ferment les yeux. Certains sont même très contents, puisque l'ensemble des sociétés françaises au Togo, pour certaines, ont doublé leurs bénéfices. Mais ce n'est pas au profit de la population togolaise. Donc, comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous qu'il y ait un changement du statu quo? Donc, il ne faut pas se tromper. Le gouvernement travaillant pour ces sociétés françaises ou autres, et qui viennent ponctionner l'essentiel de la création de richesses, qui n'est pas rétrocédé pour soutenir les populations, hôpital, routes, santé, éducation, etc., et l'enlève du pays, donc c'est des sorties massives d'argent, comment voulez-vous qu'ils aient un intérêt à un changement quelconque? Dès lors, le système de Fonia Singbe, qui veut perdurer au pouvoir, ne fait qu'alliance avec tous ceux qui veulent partager le gâteau avec eux. Et donc, il n'y a qu'au Togo que la conjugaison que vous connaissez ne commence plus par « je mange », mais continue par « nous mangeons ensemble ». Sauf que la plupart des Togolais ne sont pas membres de ce repas-là.
Justement, docteur Yves Ekouyamaïso, parlant justement toujours de l'actualité politique au Togo, et qui est quand même dégradante, et vous venez de publier sur le site cvu-togo-diaspora.org un long article intitulé « Panique de Fonia Singbe face aux futurs votes sanctions ». Alors, déstabiliser l'opposition et préparer une fraude électronique. Alors, vous affirmiez, Yves Kouyamaïso, dans cet article, que Fort a peur de perdre les prochaines élections législatives. Êtes-vous toujours si peu confiant dans la capacité de Fonia Singbe à respecter la vérité des unes au Togo.
Vous me posez toujours des questions qui sont en fait très simples.
Bien sûr.
La confiance, confiance vient et s'établit progressivement avec quelqu'un qui donne des signes, des marques, des actes qui permettent de lui faire confiance.
Et bien évidemment, oui.
Alors posez-moi, quels sont les éléments, les actes qu'a posé Fornia Singbe depuis qu'il est au pouvoir en 2005, dans des cas d'usurpation de ce pouvoir et des vérités des urnes, qui permettent à des observateurs comme nous-mêmes, au peuple togolais dans son ensemble, voire à la communauté internationale, de dire que c'est un homme de confiance. Même l'Allemagne de Mme Merkel, qui lui a fait confiance, est en train complètement de revoir cette situation et demander à chacun des Länder de prendre une position officielle sur la position de l'Allemagne dans les 6 mois, 8 mois à venir. Et qu'ici, elle est négative sur le Togo, on risque d'aller vers des situations difficiles sur le plan financier, puisque l'Allemagne influence énormément l'Union européenne. Il en est de même pour la France, qui, elle, attend d'avoir une union au niveau d'un certain nombre de chefs d'État européens. Premier élément. Le deuxième élément sur la confiance, au fond, c'est qu'il y a une connivence qui n'est plus entre les États. La connivence, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, elle est au niveau des entreprises, des hommes d'affaires, des multinationales, qui sont souvent non compétitifs dans leur propre pays, notamment en France, qui sont non compétitifs sur d'autres marchés asiatiques ou Amérique latine, et qui viennent dans les pays comme le Togo ou l'Afrique en général, où les coûts d'investissement sont des passoires, hein, qui a des collusions directes entre ce secteur privé, qui s'accapare nos banques, nos ports, la plupart de nos mines, la plupart de nos matières, et qui contrôle le circuit de transactions, et donc aspire l'ensemble de la richesse. Dès lors, cette richesse partant dans les poches privées, bien sûr, certains sont occidentaux, certains sont togolaises ou même de l'Afrique de l'Ouest, ne profitent pas à une population. Il faut bien qu'un État trouve de l'argent qui rentre. Mais si l'État a choisi que l'essentiel de l'argent qui peut rentrer part dans les poches de structures privées qui ne sont pas togolaises et qui ne sont pas intéressées à investir dans ce que j'appelle un grand contrat social, santé, éducation, les filets de sécurité que vous connaissez, la retraite, voire l'emploi, mais par définition, ce pays ne peut que s'appauvrir, ne pas créer d'emplois. Même les chiffres récents qui sont sortis sont inexacts. Le Togo, en moins de 5 ans, a eu 500 000 pauvres supplémentaires. Et on va trafiquer les statistiques pour ne dire que cela a diminué, ce qui est inexact. Et je demande à avoir une réunion officielle là où il le souhaite, sauf au Togo bien sûr, puisque la confiance ne règne pas avec Fornia Singbe, pour montrer que les chiffres et les statistiques qui donnent, qui veulent dire que la pauvreté est en train de réduire au Togo, elle est fausse. D'ailleurs, demandez à la population, c'est pas moi qui ai fait en tant que tel, ce sont nos populations. 82% sont en fait dans l'espace pauvreté, 82%, c'est-à-dire les gens n'ont plus le pouvoir d'achat, même d'acheter le petit igname colico que nous connaissons. Et c'est toutes des familles qui sont derrière cela. Alors votre question de dire pourquoi on ne peut pas faire confiance, non, c'est parce que pour se maintenir au pouvoir, il faut trouver un moyen de frauder. La fraude étant de plus en plus difficile, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, hein, on ne peut plus mettre des enfants moins de 18 ans, on ne peut plus mettre des morts, on ne peut plus mettre des fausses listes électorales, on ne peut plus dire seulement que bon, vous n'avez pas la carte d'identité, donc on ne vous compte
docteur
pas.
Docteur Yves Kouamaïzola, CENI a quand même apporté un démenti. Hein.
Mais je sais très bien, mais le démenti, où sont les preuves? On n'a qu'à nous mettre la liste sur un tableau que chacun aille vérifier si quand il est venu, il a pu mettre son nom. Comment voulez-vous compter quelqu'un qui n'a pas une carte d'identité? Dites-le-moi. Comment voulez-vous le compter? Et nous sommes à plus de 60-70% dans les zones rurales au Togo. Là-bas. Les gens n'ont même pas de papier. Ils sont au Togo, point. Et donc, comment voulez-vous faire ce problème? Ce problème n'est même pas quelque chose de nouveau. Si Kofi Nyam-Nyam n'arrive toujours pas à avoir son parti politique créé, c'est encore ce même problème de carte d'identité et finalement de nationalité et finalement d'identité, finalement de naissance et finalement tout simplement de citoyenneté togolaise. Donc, ce gouvernement est un gouvernement discriminatoire vis-à-vis de la diaspora, discriminatoire vis-à-vis des populations qui n'ont pas eu la chance d'avoir des cartes d'identité ou des papiers qui leur permettent de s'inscrire sur les listes. Donc, tous ces gens, un, sont éliminés d'office, mais vous allez, comme par enchantement, voir leur nom figurer sur la liste électronique. Ça, je peux vous le garantir d'avance. Et vous pouvez aussi vérifier que les souches de ceux qui vont voter et les souches de bulletin lui-même ne vont pas correspondre. Quand d'ailleurs il y a des numéros. ce qui est déjà arrivé, que l'Union européenne a dénoncé et qu'aujourd'hui, elle souhaite voir corrigé. Et ça fait quand même quelques années, ça n'a pas été corrigé. Donc, la question est de savoir au fond, mais qui joue ou qui est fou? Il faut comprendre que la démocratie intégrale n'arrange pas le secteur privé qui profite du système et du statu quo tel qu'il est. Et donc, cette opposition qui, bien sûr, se focalise sur le volet politique, doit aussi penser que l'ensemble de richesses qui se créent dans un État doit aller vers le secteur social. Et donc, de ce fait, il faut regarder qui vient ponctionner cette richesse créée par l'État, voire par le secteur privé togolais, qui peut retourner vers ce secteur social. S'il ne retourne pas, nous avons rompu le contrat social avec nos peuples. Et donc, ce qui nous arrive est par définition nos propres fautes. Entre autres, il va falloir trouver un moyen de s'organiser pour d'abord rédiger ce contrat social et s'y tenir. Parce que c'est aussi un autre problème des politiciens de dire quelque chose et de faire autre chose une fois qu'ils sont au pouvoir.
Docteur Yves Ekouya Amaïzo, vous êtes un membre influent de la diaspora togolaise. Eh bien, cette diaspora n'est pas recensé et le pouvoir togolais s'y refuse depuis toujours. Hein. Le Conseil mondial de la diaspora togolaise, CMDT, vient d'envoyer une lettre de rappel au Premier ministre togolais pour lui rappeler l'urgence et l'obligation de recenser les Togolais et Togolaises de l'extérieur. Alors, Yves Ekouya Amaïzo, vous pensez vraiment que le vote de la diaspora togolaise aura un impact important sur les prochaines élections législatives ou prochaines élections au Togo ?
Si vous pensez que le vote de 1 million à 2 millions de personnes n'aura pas d'impact sur le vote du Togo, c'est que vous vous trompez énormément. Ce qu'il y a de sûr, Fonia Singbe, le Premier ministre Zounou et l'ensemble du gouvernement, ils en sont convaincus. Et c'est pour ça qu'ils risquent de ne pas répondre à la lettre du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Et s'ils y répondent, ils répondront beaucoup trop tard en disant ce sera pour la prochaine fois. Ils ont refusé de rencontrer ce Conseil mondial de la diaspora togolaise. Le Premier ministre est venu en Europe, on a tout fait pour essayer de le voir. Il a fui. Il a fui comme un animal que nous avons au Togo qui s'appelle l'agouti. Et l'agouti, vous savez, ça peut sauter jusqu'à 6 mètres de haut. Hein, oui, ils viennent de la famille des kangourous, contrairement à ce que les gens ne savent pas. Et donc, si vous pouvez 6 mètres de haut, ben, vous pouvez sauter plus haut et oublier la diaspora au passage. C'est ça le fond du problème. Nous avons affaire à des gens qui sont des manipulateurs du langage et qui arrivent comme ça à embrouiller tout le monde. Mais en réalité, l'objectif est très précis. Il faut préserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et malheureusement, le pouvoir n'est pas là pour le pouvoir. Mais la conception du pouvoir qu'ils ont est celui de la prédation. On vient au pouvoir pour prendre. On prend là où il y a de la richesse. Si on ne sait pas faire, on s'associe avec le monde privé occidental de moins en moins éthique, de moins en moins compétitif. Et on utilise à ce moment-là la force, qu'elle s'appelle militaire, renseignement ou autre, pour massacrer les populations. Et là, voyant une opposition qui commence à monter, alors on s'attaque à l'ensemble des responsables de l'opposition. Comme par hasard, ils sont tous du CST. Et CST, ce n'est rien d'autre que des gens qui disent « Écoutez, asseyons-nous sérieusement et mettons les conditions de la transparence pour aller aux élections. » Non, ce gouvernement voulait que ces gens boycottent le système, les gens ne veulent pas. Ces gens voulaient que les gens ne s'inscrivent pas dans les listes, les gens vont s'inscrire. Et la nouvelle technique, c'est de demander cette carte d'identité ou la carte de la nationalité. Et comme beaucoup de gens ne l'ont pas ou ce n'est pas à jour, ça va éliminer une grande partie de la population. Et on clôture tout avec ce vote électronique. Maintenant, reste à la communauté internationale soit de l'avaliser, soit de ne pas l'avaliser. Mmh. Et là, on
justement,
verra
justement,
si la France, l'Allemagne sont des pays des droits humains qui ont un respect quelconque pour des populations noires togolaises.
Justement, Dr Yves Ekouya Amaïzo, parlons-y de cette communauté internationale, notamment la France et l'Allemagne. Est-ce que la France et l'Allemagne peuvent intervenir ou pour permettre d'aller vers des élections démocratiques transparentes au Togo? Est-ce que ces deux pays n'ont pas une politique ambiguë, d'une part, et ils ne veulent pas chasser les immigrés africains de l'autre part également, et directement ou indirectement, ils contribuent à maintenir en place quand même des régimes autocratiques et antidémocratiques, et bien ce qui empêche la diaspora africaine de rentrer en Afrique. Quelle est votre analyse, Dr Yves Ekouya Amaïzo?
Alors, C'est un domaine un peu complexe, on va essayer de simplifier ça. D'abord, cette communauté internationale, pour être précis dans le cas togolais, celle de la France et de l'Allemagne, plus particulièrement celle de la France, aujourd'hui, avec un changement gouvernemental avec François Hollande, est et a toujours intervenu au Togo. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Que cette intervention soit devenue beaucoup plus discrète, qu'elle soit devenue beaucoup plus subtile, qu'elle passe par le secteur privé et qu'elle permette à ce moment-là au gouvernement de jouer à celui qui, au fond, n'est opprimé pour rien, tant mieux. Mais regardez bien où se trouvent les armées. Regardez à quoi servent les bases de Niamtougou. Regardez les bateaux militaires qui viennent au port de Lomé. Vous aurez rapidement compris que l'interventionnisme de ces pays, en tout cas de la France, continue d'une certaine manière. Est-ce que cela permet, suite à votre question, d'aller vers des élections démocratiques transparentes au Togo? Au niveau des annonces, on peut peut-être encore y croire. Au niveau de la réelle politique, c'est-à-dire que ces pays, je parle à la France essentiellement, sont plutôt en voie de récession, en tout cas pour une certaine période, et ont besoin donc de l'argent de l'Afrique, vont se mettre, même s'ils contestent la France-Afrique, à recevoir à tour de bras l'ensemble de ces anciennes ou actuelles dictatures. D'ailleurs, M. Sassou, pour le problème de lui du Congo, est invité dans les deux semaines qui, ou trois semaines qui suivent. Donc vous voyez bien qu'il faut bien que l'argent revienne d'une manière ou d'une autre. Alors pour le cas du Togo, le problème est de savoir si une vérité des urnes va permettre de changer en profondeur l'influence de cette France ou cette Allemagne. La France surtout, puisque l'Allemagne, la France a pris pratiquement sa place au Togo. Est-ce que l'influence là va permettre de profiter à cette France-là? Sinon, si c'est pour la démocratie en tant que telle, une démocratie intégrale au Togo, ça n'arrange absolument pas l'État togolais. Nous allons, et encore moins l'État français, nous allons vers ce qui se passe en Amérique latine ou ce qui se passe en Asie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, nous retrouverons une certaine souveraineté, une certaine autonomie décisionnelle. Malheureusement, ce sont des choix qui n'ont pas été faits depuis les années 60, pratiquement. À la colonisation a succédé la post-colonie, et où nous avons remplacé des Blancs par des Noirs, et souvent des militaires, même s'ils sont en sous-main. Et aujourd'hui, on appelle ça des services de renseignement, on appelle ça des gendarmes, on appelle ça des policiers, mais c'est le même métier. Avant, ils n'étaient pas gourmands, maintenant ils sont devenus très gourmands, ils sont rentrés dans le secteur économique, ils ne comprennent pas comment on crée de la richesse, ils ne comprennent pas qu'il faut de l'emploi, ils ne comprennent pas tout ceci, ils veulent la facilité, ils veulent la rapidité. Donc qu'est-ce qui se passe? On achète ici, on vend là-bas, c'est même ça, c'est compliqué. Donc ils attendent que quelqu'un ait l'argent et ils vont le prendre, tout simplement. Donc une démocratie, quelle qu'elle soit, et quel que soit celui qui pourra gérer ça, mais ça les dérange, ça met de la transparence. Donc, partis politiques d'opposition, il faut mettre ça de côté, les déstabiliser. Journalistes, de manière générale, il faut les empêcher de parler. Et comment on fait pour les empêcher? Mais on leur colle une histoire sur le dos, en ne respectant ni la forme, ni les procédures, ni le fond. Et les pays de droits de l'homme qui connaissent très bien comment marche le droit, ils sont silencieux, ils se taisent, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, et ils continuent à nous dire qu'ils sont les pays de droits de l'homme. Et oui, même Barack Obama, qui connaît très bien ce qui se passe au Togo, dans son deuxième mandat, considère le Togo comme une zone non prioritaire. Pourquoi? Parce qu'on n'y fait pas du business. Il n'y a pas de pétrole. Pourquoi il va se fatiguer? Il ne reste que la géostratégie. Donc si le Togo signe tout ce que veulent les États-Unis à New York là-bas, aux Nations Unies, et qu'on ne pose pas de problème pour que les avions américains survolent notre espace, pourquoi voulez-vous que Obama fasse un changement quelconque? C'est le statu quo. Demandez à l'ambassadeur des États-Unis qui est sur place. Et c'est une zone de basse tension, il n'y a pas de problème au fond. Il y a des gros problèmes en Syrie, qu'est-ce que vous voulez comparer le Togo à ces pays-là? Alors sur le volet de la migration, vous avez touché un problème de fond. C'est-à-dire que nous proposons depuis longtemps la notion de migration circulaire. On ne peut plus faire ces immigrations choisies. Pourtant, c'est ce qui se passe. C'est que ces pays, France, Allemagne, comme ou même les États-Unis, ou le Canada ou d'autres, qu'est-ce qui les intéresse? Ils intéressent que nous-mêmes, les Noirs, les Africains, nous nous faisions former par nous-mêmes, nous payons nous-mêmes nos études, mais si par chance nous réussissons, alors nous n'avons qu'à servir leurs intérêts. Donc, ils ponctionnent les médecins, ils ponctionnent les intellectuels qui peuvent leur servir à quelque chose. Pour le reste, c'est au cas par cas. Si on a besoin, pendant la saison des fraises, de quelques personnes pour rentrer rapidement et les faire ressortir, pourquoi pas? Si on a besoin de quelqu'un pour nettoyer les routes, etc., pourquoi pas? Mais il ne faut surtout pas rester, il ne faut surtout pas leur donner des droits. De cette manière, on peut faire baisser le prix des salaires. Mais quand ils deviennent trop nombreux à cause des difficultés de l'autocratie au Togo, comme en Allemagne par exemple, au bout d'un moment, ils veulent les mettre dehors. Mais dans quelles conditions? comme ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé au Togo, et je parle là vraiment du gouvernement allemand, et qu'ils ont cru que l'UMCU était l'opposition, pour eux, ça n'existait pas. D'ailleurs, la Suisse a fait la même chose. Ils ont dit, ça y est, on ne donne plus le droit de cité aux réfugiés parce que c'est une démocratie au Togo. Quand ils ont commencé à revoir ce qui se passe, quand ils ont entendu tout ce que vous avez entendu depuis 2005, ils sont en train de revoir leur position. Mais c'est que ça coûte de l'argent, ça a coûté du temps, ça a coûté des erreurs politiques. Merci. Et personne n'est venu, au fond, les déranger dans cette histoire. Mais je sais qu'il y a un monde honorable, je sais qu'ils sont en train de réfléchir à changer la situation, sauf que derrière cela, ce n'est plus le politique qui dirige aujourd'hui, c'est le secteur privé. Et si ce secteur privé veut faire des affaires avec un régime de la prédation, un régime clientéliste, mais écoutez, ils vont travailler ensemble. Et ça devient plus compliqué puisque même ce pouvoir politique en Allemagne ou en France dépend de sa survie, des impôts que va payer ce secteur privé. Et si ces secteurs privés payent régulièrement les partis politiques, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Sans l'argent, et rien ne fonctionne. Donc c'est cette situation complexe qu'il faut comprendre. Et la meilleure solution, c'est de permettre d'influencer ceux qui sont encore sensés, ceux qui sont encore un minimum d'éthique dans l'ensemble de ces partis politiques de droite comme de gauche en Occident, pour trouver une nouvelle alliance avec la société civile en Occident, comme en Togo d'ailleurs, pour permettre un changement, parce qu'au fond, le changement ne va pas venir comme ça au hasard.
C'est clair.
Moi, je veux bien écouter un certain nombre de choses, de prophéties que vous dites, qui sont finalement les conséquences de plusieurs années d'erreurs de stratégie, d'erreurs de refuser de mettre un contrat social en place, d'erreurs de refuser de donner de l'emploi à des populations togolaises. Donc, à un moment donné, mais ça, c'est la crise. La crise, c'est quoi? C'est bien la mort. Quelle que soit la façon dont ça s'opère. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur du système, il y a quand même beaucoup de dysfonctionnements aussi. N'oubliez pas les problèmes familiaux de ce système. N'oubliez pas que l'entente n'est pas cordiale entre l'UFC et UNIR, par exemple. Donc tous ces éléments, à un moment donné, doivent pouvoir, sous la forme et sous la pression qui est en train de s'exercer, exploser.
Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Dr Yves Ekwamaizo, coordinateur général du CVU-togodiaspora.org depuis Vienne en Autriche. Vous êtes également économiste consultant international. Merci d'avoir participé à cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci également de commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo. Encore une fois, merci et bonsoir.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de l'avoir choisi. Romain Koudodi, Lucien Hunkali, Esteban Gagnon, Josué Maoli, Fabi Kouassi. Vous donne encore rendez-vous prochain samedi et vous donne encore rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne continuation sur le www.canalk.ch.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
La nouvelle génération.